Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
De retour sur les ondes de CFAC 88.3. On va parler dans notre dernier bloc sur le gaz à effet de serre, les indicateurs environnementaux et les inégalités économiques. Alors, pourquoi il faut s'intéresser? Alors, des chiffres plus silencieux comme, par exemple, gaz à effet de serre, des émissions mondiales, des indicateurs environnementaux, comme j'avais mentionné. Alors, des données que certains ignorent, d'autres contestent, mais qui dessinent pourtant l'avenir de la planète et des rapports de force entre pays. Pourquoi ces indicateurs sont-ils si importants? Que nous disent-ils? Et surtout, sont-ils neutres? Ou servent-ils parfois à s'imposer des barrières aux pays les plus pauvres? Commençons avec les bases. Les gaz à effet de serre sont des gaz qui retiennent la chaleur dans l'atmosphère, accentuant le réchauffement climatique, le plus connu comme par exemple le CO2, mais il y a aussi du méthane, le CH4, et le protoxyde d'azote, qui est le N2O, etc., etc. Alors, selon les données de 2023 de Global Carbon Project, la Chine représente environ 30% des émissions mondiales. Les États-Unis, par exemple, représentent 14%. L'Union européenne, tout en ensemble, représente à peu près 7%. L'Inde, également, elle est de 7%. Et ici au Canada, avec sa petite population, pèse à peu près pour 1,5%. Mais l'un des pires émetteurs par habitant. Et c'est là que ça devient intéressant. Les émissions absolues ne racontent pas tout. Il faut aussi regarder les émissions par habitant, car le Canada et les États-Unis et l'Australie sont très mal classés. Les émissions historiques cumulées, car les pays industrialisés sont responsables de l'essentiel du stock de CO2 dans l'atmosphère. Les émissions importées, comme les pays riches, consomment des biens produits ailleurs, mais polluants à produire. Pourquoi consulter en fait tous ces indicateurs que je viens de dire? Alors, les indicateurs environnementaux sont vraiment très nécessaires pour plusieurs raisons. Premièrement, suivre le progrès ou recul en matière de réduction des émissions, comparer les politiques climatiques entre les pays, alerter les risques écologiques majeurs, déforestation, fonte de glace, la propagation des aires protégées, ou bien plutôt l'amélioration des aires protégées terrestres, maritimes, informer les décisions politiques, économiques, industrielles. Au Canada, l'environnement et changement climatique du Canada, qui est le ECCC, le ECCC, publie chaque année un rapport complet avec des cartes, avec des graphiques, avec des séries temporelles, des panels sur les émissions par secteur, par province, etc., etc. Par exemple, le secteur pétrolier est le plus gros contributeur aux gaz à effet de serre, suivi par le transport. Et au niveau mondial, l'OCDE et l'ONU, ou encore la plateforme Climate Watch, permettent de consulter des données ouvertes, interactives, comparables. On peut y avoir l'évolution des émissions d'un pays depuis 1990, ou le poids des énergies fossiles dans les mix énergétiques. Mais voilà, ces indicateurs ne sont pas qu'un outil de connaissance. Ils deviennent parfois un instrument de pression, voire de domination. Prenons un exemple. En 2023, l'Union européenne a mis en place le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, une taxe sur les produits importés selon leur empreinte carbone. Objectif affiché, c'est éviter le dumping écologique. Mais pour plusieurs pays en développement, c'est vu comme une barrière commerciale déguisée. Ils disent « Vous avez pollué pendant 200 ans pour vous industrialiser et maintenant que nous voulons nous développer, vous nous taxez au nom de l'écologie. » En fait, c'est vraiment ça. vous nous taxez au nom de l'écologie. Parce que, avec cette tension, c'est réel. Le climat devient un nouvel espace conflit économique entre le Nord et le Sud. Le Nord sont toujours les pays développés et le Sud ne sont pas les pays qui sont au Sud, mais sont les pays en développement. Entre ceux qui ont les moyens d'être verts et ceux qui doivent encore accéder à l'électricité. Je ne vais pas donner des exemples pour dire « Oui, tu veux parler de l'Afrique ?» Mais oui, je parle de l'Afrique. Tiens, j'ai rien à dire là-dedans, mais en fait, si je pose la question vers des indicateurs plus justes, certains chercheurs et l'ONG, certains économistes plaident pour repenser les indicateurs environnementaux pour y intégrer les émissions importées, les capacités de financement des pays, le degré de vulnérabilité face au changement climatique. L'idée serait de ne plus juger uniquement les pays sur leur temps de CO2, mais aussi leur effort, leurs besoins et leur résilience. En d'autres termes, c'est passer d'un climat de punition à un climat de coopération. Mais je crois que les indicateurs aussi environnementaux sont absolument nécessaires, mais qu'ils doivent être manipulés avec prudence. Oui, il faut des données en fait claires, des données solides, transparentes et accessibles, mais il faut aussi connaître leur contexte, leurs limites, leur usage politique. Et surtout, il ne faut pas oublier l'essentiel derrière chaque chiffre. Il y a des vies humaines, des forêts menacées, des aires protégées détruites, des territoires en péril. Le but n'est pas de gagner un concours de vertu environnementale. Le but, c'est de préserver une planète habitable ensemble. Alors oui, regardons les statistiques, mais utilisons-les, utilisons-nous les pour s'unir, pas pour exclure. Voilà. Aujourd'hui, on a voyagé dès le début dans un salon de café Barbier, le salon de mon ami Tariq, et dans la rue de Sherbrooke, dans la rue de Galt, 2230. Et aussi, je fais une très grande dédicace à mon ami Oussama aussi. Et on a fait jusqu'au couloir feutré des banques centrales. L'argent tombe du ciel, comme une amie me l'a dit. L'argent tombe du ciel. En passant par les sommets himalayennes du bonheur intérieur brut, le BIB, ses coulisses du climat mondial. Et pourtant, un même fil rouge traverse tous ces sujets, c'est le sens qu'on donne à notre économie. Est-ce qu'il y a un sens? Alors, ce sens, on ne le retrouve pas, ou bien on le retrouve, en fait, dans les projets locaux, comme celui de Tariq, où chaque tasse de café et chaque coup de ciseau deviennent des actes d'ancrage, de confiance, de proximité. On le retrouve, en fait, je fais mute. Alors, à chaque tasse de café, comme je viens de dire, à chaque coup de ciseau deviennent des actes d'ancrage, de confiance, de proximité. On le retrouve aussi dans notre rapport à l'argent, lorsqu'on réalise que la monnaie n'est pas une vérité absolue, mais un outil façonné par des institutions et des choix politiques. On le retrouve enfin dans la question de bonheur, ce mot simple mais vraiment très ambitieux qui nous pousse à réinterroger les fondements de nos sociétés. Et dans les indicateurs environnementaux qui nous rappellent qu'aucune économie ne peut être durable si elle détruit le vivant. On ne peut pas avoir une bonne économie sans sacrifier l'environnement. À travers tout cela, une question revient. Vers quoi voulons-nous aller collectivement? Une économie de croissance brute, une économie de bien-être, une économie désincarnée ou une économie enracinée dans les territoires, les humains et la nature. Je pense qu'il est temps de réconcilier ces deux échelles, le local et le global, de comprendre que nos choix individuels, consommer le local, soutenir un projet, s'informer, s'engager, peuvent être comme des réponses concrètes aux défis planétaires. Et que la vraie modernité aujourd'hui, ce n'est plus de produire plus en plus, mais de vivre mieux et de vivre ensemble. Voilà, c'est 17h55, vous étiez avec l'Économie en Mouvement, votre émission hebdomadaire sur la CEFAC 88.3 FM, et merci de m'avoir accompagné dans ce voyage entre les ruelles de Sherbrooke et les grandes idées du monde. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit et même fréquence. D'ici là, prenez soin de vous et de votre économie locale. À bientôt.